Oui, alors pour moi, de ma part, ce sera du côté de la sphère islamique et plus particulièrement des productions discursives d'une autorité du sunnisme contemporain assez importante qui s'appelle le Cheikh El-Bouti, qui est d'origine syrienne. Quant aux textes sur lesquels je vais m'appuyer, donc ce seront bon, des sources scripturaires de l'islam sur lesquelles il s'appuie et d'autres auteurs aussi de la voie moyenne, on dira ça entre guillemets. Et d'autre part, je pense que là, il y aurait une perspective comparatiste intéressante à faire. Je vais aussi m'appuyer sur des sources qui sont des fatwas, qui ressemblent un petit peu au responsum, où vous avez un solliciteur qui va poser une question lors d'un cas de nécessité et d'urgence. Et de l'autre côté, va lui répondre le mufti, c'est-à-dire le religieux qui a suffisamment de connaissances. Donc ici, le Cheikh El-Bouti. Et qui va essayer de répondre aux questions d'urgence que lui propose le solliciteur. Voilà. D'autre part, il y a une chose aussi qui est à dire, c'est que la fatwa est un instrument de droit, mais qui n'a pas de valeur légale. Donc ça, c'est un conseil. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est que, étant donné que la fatwa est une étude de cas, elle nous aide quelque part à faire émerger, à voir les enjeux qui sont émergents dans la sphère musulmane et plus largement dans le monde contemporain. Et d'autre part, on peut voir aussi que le cas exemplaire va montrer que le droit peut bouger et nous montrer en quelque part que le droit peut être révisable. D'autre part, cette étude de cas que peut être la fatwa, elle a un intérêt heuristique très important dans la mesure où elle pointe les contingences de l'ici-bas et les situations impérieuses de nécessité auxquelles il faut donner une réponse. Mais il y a une autre approche qui m'a paru intéressante, c'est essayer de sortir du cadre du droit pour essayer de redescendre et de déplacer, étant donné les questions qui sont posées par les sollicitaires, dans une approche plus anthropologique. Et à ce niveau-là, lorsqu'on est dans cette approche anthropologique, on peut y voir aussi toute la manière dont va se décliner un discours dans une réflexion beaucoup plus éthique. Et là, on se met dans une dimension beaucoup plus humaine, ce qui évite toutes ces espèces de hauteurs prescriptives. Et à ce niveau-là, me semble-t-il, on peut faire énormément de ponts entre différentes cultures, puisque là, nous avons des questionnements assez universels. Bon, peut-être les réponses sont peut-être différentes, mais je pense qu'à ce niveau-là, qui n'est plus forcément dogmatique, on peut arriver à beaucoup plus de comparentisme entre différentes cultures. Voilà, donc... Et pour ce qui est de l'islam et de ce côté anthropologique, d'après moi, ce que j'ai pu lire, il m'a semblé qu'il y a une notion du droit musulman qui est extrêmement importante, qui s'appelle la maslaha, qui est l'intérêt général. On peut le traduire par intérêt général, par aussi le bien commun, et on peut aller jusqu'à la notion de bien-être aussi. Donc ça donne une espèce de toile très déployée qui peut jouer sur beaucoup de thèmes. Et là, ce qui est très important à dire, c'est que c'est la situation, ça va être une situation personnelle qui va être au centre de ça, mais qui va être jugée, notamment pour l'avortement et les procréations médicalement assistées sur lesquelles je vais vous entretenir aujourd'hui. Nous allons avoir, je vais vous présenter la maslaha, vous allez avoir donc la maslaha de la procréation, alors l'intérêt de la procréation, l'intérêt du couple, l'intérêt de l'embryon et l'intérêt de la société. Société, on peut penser à l'État aussi, hein, on met ça dans ce cadre-là. Et tout ceci va se jouer dans un ensemble où nous allons avoir des espèces de tensions, et selon les situations, un intérêt va l'emporter sur l'autre. Ou alors on va essayer de combiner plusieurs intérêts en même temps. Voilà. Donc, pour ce qui est de la procréation médicalement assistée, le Conseil académique de jurisprudence de la Ligue islamique mondiale, qui est l'une des instances où se joue la réflexion bioéthique en sphère musulmane, a décrété en 1985 que le désir d'enfant chez une femme mariée qui ne peut procréer est considéré comme une visée légitime. Ce propos général est partagé par de nombreuses cultures, et là, on sous-entend toujours ce même problème où la stérilité est affaire de femme, alors que l'homme peut être aussi stérile quelque part, mais enfin bon. Le sperme est traditionnellement fertile, donc c'est la femme qui en a la responsabilité. D'autre part, dans ce cas général, ce qui est important, c'est que la procréation médicalement assistée va permettre de pallier à une absence de filiation, même si on ne résout pas le problème de stérilité, et ce qui va permettre une inscription sociale dans une lignée. Donc, je vais vous présenter une fatwa. Donc, la question du solliciteur est, est-il licite ou réprouvé, enfin, l'enfant éprouvette est-il licite ou réprouvé? Là, le moufti, c'est-à-dire le religieux, fort de son ijtihad, de son effort de réflexion personnelle, va répondre. La démarche qui consiste à recourir à la procréation médicale assistée est autorisée. Alors là, vous avez le terme de jahiz, je reviendrai après. En situation de nécessité, eu égard au lien particulier noué entre les époux, on ne s'étendra pas plus sur ce thème. Donc, on voit que la réponse est très laconique. D'autre part, on peut voir émerger avec une nouvelle, cette innovation médicale, on voit que c'est une question ancienne là, qui émerge, qui est celle de la filiation et du clivage entre la filiation biologique et la parenté sociale. En gros, c'est la question qui se pose. Donc, en revenant sur la question du terme jahiz, donc il me semble qu'elle est importante, car si l'on revient aux catégorisations du droit musulman, jahiz veut dire, signifie les actions dont la loi laisse entière liberté pour son accomplissement ou son non-accomplissement, et pour lequel on ne doit attendre ni récompense ni punition. Donc, vous avez la notion d'autoriser, qui est l'al-jahiz. À côté, vous avez la notion de devoir et d'obligatoire, qui est le fard, le wajib. Vous avez le permis, dont l'action, elle, est indifférente, dont on ne punit pas le non-accomplissement, même si l'on récompense son accomplissement. Ensuite, vous avez le makruh, qui est le répréhensible ou laboré, et ensuite le défendu et l'interdit. Donc vous avez toute cette catégorisation. Et avec el-jahiz, et d'après mon expérience de lecture, on voit que quelque part ici, une certaine... Bon, est-ce que je peux dire liberté? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une tolérance. Une tolérance, dans ce cadre-là, qui va nous entraîner ici à une certaine liberté, une liberté d'action qui est laissée à l'être humain à l'égard de ces questions-là. Donc, dans le problème douloureux que peut vivre un couple lorsqu'il est infertile, alors la personne sur laquelle je travaille, le Cheikh El-Bouti, et certainement d'autres, mais je ne l'ai pas vu ailleurs, il prône le droit personnel, haq shahsi, et le droit des conjoints, haq zaoujain. Donc, ce douloureux problème de la stérilité va être posé, mais le Cheikh va quand même les mettre en tension entre la stérilité du couple et les possibles dérives à l'égard de la filiation. Donc là, toute la réflexion va se fonder autour de cette tension. Car, quelque part, avec les possibles dérives, notamment pour lui et pour d'autres aussi, on peut penser à la congélation des embryons, qui pourrait être, j'avais une fatwa, où il avait la peur, c'est que les embryons soient mélangés. Donc, la filiation ne serait plus ce qu'elle devrait être. Et là, si se passe ce genre de choses, là, on va à l'encontre du droit de la société. Et ceci, je vais vous donner la règle qui l'évoque est celle de l'obligation de bloquer tout prétexte qui justifierait les comportements proscrits. De là est légitimé le péril. Donc, si l'on résume sa position et la situation de la procréation médicalement assistée, on voit qu'il y a une disjonction entre, le lien de l'acte sexuel et la procréation. Ceci se passe notamment par l'étape de mise en culture de l'ovule, la manipulation in vitro, même si ensuite l'œuf est remis dans l'utérus de la femme, cet espace où vous avez la manipulation in vitro, elle laisse quelque chose de suspendu. Et c'est là où tous les périls peuvent arriver pour ce cher et pour d'autres aussi. Parce que là, il n'y a pas de maîtrise. En plus, c'est à l'extérieur du ventre de la mère. Et ça, c'est très important aussi dans sa manière d'aborder les choses. Donc, la fécondation in vitro touche par voie de conséquence à la valeur symbolique de l'origine de la vie, de la personne et de la parenté. Donc ici, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, nous avons un conflit d'intérêts qui s'articule autour du droit parental, du droit de la société et du droit du fœtus. Donc, il y a trois cas que j'ai pu étudier, qui sont l'insémination tout d'abord artificielle intraconjugale, qui ne pose pas énormément de problèmes. Pour ce cher, elle prend en compte de la même manière le registre psychologique et la pulsion inconsciente que l'on nomme en Occident le désir parental, et chez lui c'est le droit parental. Ici, je n'ai pas vu le terme de désir parental qui apparaissait dans ces textes. C'est plutôt le droit des conjoints. Des fois, on a le droit individuel, mais c'est surtout le droit des conjoints. D'autre part aussi, bon, je pense que s'il y a autorisation, c'est une manière aussi de se conformer à un stéréotype social, comme celui du mariage, sacrément religieux, et seul le mariage est source de filiation. Donc là, nous sommes dans un complexe, le complexe de la filiation et de la parenté aussi. Donc si le rapprochement physique peut être absent avec l'apport de la médicalisation et de l'opération in vitro, il n'empêche que la reproduction sexuée sur un plan symbolique, elle fonctionne. Mais pour lui, comme je vous l'ai dit, elle n'est pas entachée de préjudices. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il était tellement laconique qu'il n'a pas voulu en dire plus, il n'a pas voulu traiter beaucoup plus cette question dans la fatwa. Il en a parlé plutôt dans d'autres occasions. Où là, ça s'adresse, la fécondation in vitro, enfin, cette opération s'adresse, il ne peut lui en parler en tant que religieux qu'à des individus et non pas à une assemblée. Et faire une fatwa qui serait beaucoup plus large. Donc quelque part, on peut voir que ce nouveau mode de filiation reprend sous une forme renouvelée que la biotechnologie lui fait revêtir des règles qui commandent la filiation. Et comme je vous l'ai dit, bon, ce passage par la médicalisation peut entraîner certains périls. Alors vous avez aussi le côté vraiment de la manipulation de la médecine, c'est-à-dire l'immixtion ou l'eugénisme. Là aussi, c'est les deux périls les plus importants. Et d'autre part, quelque part, cet acte est contraire à la règle de prédestination religieuse, mais aussi une source d'inquiétude dans la confusion des descendances d'une part, et dans la confusion aussi des liens intergénérationnels. Et ça, on peut le voir avec la congélation, parce qu'une femme ayant congelé ses ovocytes peut les garder, et 15 ans après, peut se les refaire réintroduire, et là, on aurait des frères et sœurs qui auraient une dizaine d'années de différence, alors que l'opération médicale a été faite en même temps. Et là aussi, ça pose problème. Donc, quelque part, face à ça, bon, mais il y a une chose qui est incontestable dans ce cas précis, c'est la maternité. Et la maternité, et également aussi le fait d'accoucher, est le lien de parenté essentiel. Alors que du côté du père, comme le dit Mohamed Ben Khaira, on est plutôt dans la présomption et dans une fiction juridique. Donc si le lien peut être distendu entre la sexualité et la procréation par rapport à la filiation, l'ordre procréatique, quelque part, ne saurait quant à lui être subverti. Car la filiation reste construite sur une logique biologique dont la femme est responsable, et l'engendrement est la marque. Alors les inacceptables chez ce cher et pour d'autres sont, vous en aviez parlé, le donneur de sperme étranger au couple, ou bien la fécondation, enfin, le caractère hétérologue de la fécondation avec le tiers. Alors, cette action pour le cher El Bouti est considérée comme une action immorale. Et le mari, lui, alors si on est dans un. Il a la fonction de macro. Un macro, c'est un. Enfin, c'est le proxénète. Voilà, le père, le mari aurait une fonction de proxénète. Car, dit-il, je le cite, une disjonction s'opère, dans ce cas-là particulier, entre les liens de sang et de filiation. Ils sont à considérer dans leur caractère indissociable et assimilé, tel une arcane du système familial. Donc l'assimilation artificielle avec donneur est logiquement refusée, dans la mesure où cet acte va contrevenir aux règles du droit de la filiation, en conduisant à une discordance entre paternité biologique et parenté sociale. Et il y a aussi, oui, je vous l'avais dit, bon, le cas du macro. Ensuite, bon, il y a aussi le cas de la gestation pour autrui, avec la mère de substitution. Là aussi, pour lui, ce serait prétexte à confusion de filiation. Alors, l'une et l'autre, donc pour le cas de la mère porteuse, dans ce processus. Donc là, vous avez il y a une opposition entre la mère gestationnelle aux côtés de la mère génétique, et celle qui va l'emporter, c'est la gestationnelle. Donc cet acte est interdit, il est taxé d'interdit dans la mesure où il dissocie l'étape de fécondation avec celle de la gestation et de la maternité. Or, comme je vous l'avais dit, la marque de la filiation pour la femme, c'est la maternité. Et donc, si on poursuit son argumentaire, l'accouchement qui ne peut être disjoint de la réalité gestationnelle, il va investir la parturiente, dans sa fonction de mère, auquel cas la mère porteuse devient la mère légale. Donc la fonction de la mère est celle de porter et d'accoucher. Donc la mère de substitution sera la vraie mère. Donc moralement réprouvées, ces deux opérations mettent en péril les deux membres du couple en les taxant d'adultère. Et ils introduisent également les germes, alors là la fameuse notion de fitna et de désordre, et là on rejoint le droit de la société où ce n'est pas possible. Donc on va retrouver cette fitna dans le modèle familial et dans le modèle social. Bon, mais pour en revenir plus largement à cette opération, aussi à la procréation médicalement assistée, celle à qui l'on a donné une tolérance, la dissociation du lien classique sexualité-procréation va être quand même acceptée, dans la mesure où les techniques de reproduction artificielle sont un moindre mal pour pallier les problèmes d'infertilité cristallisés autour du corps de la femme. Parce que, bon, c'est vrai, on parle assez peu de la femme, enfin là, il y a son corps qui est là, quoi. C'est vraiment le théâtre de toutes ces opérations. Et si la fécondation et la gestation ne sont pas dissociées, la filiation maternelle, en vertu de la vie intra-utérine, l'emporte indéniablement sur l'origine génétique, contrairement à la filiation paternelle, comme je vous l'ai dit, où c'est une fiction juridique. Touchant aux valeurs universelles et plus fondamentales que sont l'origine de la vie, l'hérédité et la parenté, la prise en compte de la détresse physique attachée au droit parental est mesurée, pour ce cas-ci et pour les cas de procréation médicalement assistée, au droit du fœtus et d'un sacré relationnel identifié par la filiation. En vertu, je cite le Cheikh El-Bouti, « en vertu, dit-il, du droit à la vie sacralisée et de la dignité humaine. » Or, avec cette méthode de médicalisation, on voit que le sacré il n'est pas intouchable relativement à une situation concrète et de nécessité. Parce que si on peut toucher à la vie quelque part, il n'y a pas de problème, et à la dignité. Mais si l'on déplace la question au niveau proprement humain et de la vulnérabilité du couple, on verra que cette dignité peut être touchée en quelque sorte, là, il va falloir que je revienne sur l'avortement, où là, les intérêts vont être complètement différents. Là, c'est l'intérêt du fœtus qui va l'emporter, à la différence de la question de l'avortement, où, quelque part, la détresse va être beaucoup plus importante. Donc, je dois faire retour là sur deux sources, enfin, il y a trois sources scripturaires qui décrivent l'embryogenèse en islam. Mais il y en a une qui est beaucoup plus importante que les autres. Donc, je vais vous citer les deux premières qui sont issues du Coran. Vous avez la sourate El-Mu'minoun 23-12, qui est une description de l'embryogenèse. Ensuite, vous avez la sourate 39 El-Zumar, verset 6, qui là aussi va vous décrire l'embryogenèse, mais d'une manière beaucoup plus symbolique. Et la troisième que je vais vous citer, qui est une source du hadith, et sur laquelle se fondent les positions des différents jurisconsultes musulmans. Alors, je vous la lis. Chacun de vous demeure dans le ventre de sa mère pendant 40 jours. Une goutte de sperme, puis un caillot de sang d'une durée égale, puis un morceau de chair pendant une période d'une durée équivalente. Ensuite, Dieu envoie l'ange chargé de lui insuffler l'esprit. Donc, on peut voir que dans cette description, on peut voir une évolution. Et contrairement aux positions vitalistes de certains rigoristes qui font de la personne un concept substantiel, on peut voir qu'au travers de cette description, Nous sommes dans un continuum. D'une part, une première partie qui va exprimer les conditions biologiques, essentiellement, et d'autre part, on voit les évolutions qui se font peu à peu vers la conscience réflexive et celle de la personne. Ce continuum minimise la traditionnelle évaluation contradictoire qui oppose dans le cadre de l'avortement le moralement permis au moralement interdit, au nom de la protection absolue de la vie, qui est celle des roulamas rigoristes, je cite le cher Elbouti, hein. Ces roulamas rigoristes qui interdisent tout moyen visant à bloquer la procréation ou différer la période de grossesse. Alors, ceci se légitime par... Alors, il y avait une tradition avant la venue de l'islam qui était la tradition de l'enterrée vivante, ou l'enterrée vivante à la dérobée. Donc ceci, vous le retrouvez, ça vient d'un hadith, vous le retrouvez dans le Mousnad d'Ibn Hanbal, et dont s'est servi le jurisconsulte Ibn Hazm, mais pour inaugurer la contraception et la limitation des naissances, mais pas, comme le dit le Cheikh Elbouti, dans le cadre de l'avortement. Pour lui, ça ne fonctionne pas. Donc, à cette position vitaliste et privilégier une complexité, enfin, d'après ce que j'ai pu lire, là aussi, l'attitude est laissée aux époux. Une certaine attitude pour mettre un terme ou non à une grossesse engagée. Et là, la limite pour une grossesse, enfin, pour un avortement, pas un avortement thérapeutique, hein, l'autre avortement, est engagée jusqu'à la sixième semaine où, par rapport à la description de l'embryogenèse, l'âme va être insufflée. Donc vous pouvez le faire jusqu'à ce que l'âme soit insufflée. Toutefois, dit-il, alors là il reprend des règles de droit, mais de droit moral, l'avortement est un acte abhorré à caractère licite. C'est karaha tanzihiya, et qui contraste avec l'acte abhorré à caractère illicite. Donc, au regard de cette description du hadith et de ce continuum, l'avortement, enfin, comme je vous l'ai dit, s'appliquera à une vie humaine biologique. Ce n'est pas une personne que l'on va supprimer, conformément à une éthique contextualisée qui intéresse avant tout le cas réel. Ceci va se surajouter aussi la situation de détresse qui va amener à l'acceptation. C'est pour ça qu'il emploie, à mon avis, hein, qu'il emploie cette catégorie d'actes abhorrés à caractère licite, parce qu'il prend la situation d'urgence et de détresse. C'est là où nous voyons que le caractère licite vient se greffer, pourtant, à un acte qui est réprouvé, mais qui n'est pas interdit. Donc, je vais vous citer une fatwa. Alors, cette fatwa, je vais juste vous donner la réponse, c'est une fatwa qui traite de l'intérêt de la mère. Il dit, alors, ce serait plutôt oui, l'intérêt de la mère et l'intérêt de l'enfant. Voici sa position. Les termes du débat ne s'articulent toutefois pas autour de la préférence de soi au détriment d'autrui. Il repose sur ce que nécessite l'obligation imposée d'assistance et d'aide. Car la femme enceinte est l'axe de la qualification juridique et base du discours divin. L'humanité absolue, dont la loi islamique est l'expression la plus exacte, n'accorde pas grande importance à cette manière de voir. En effet, une très grande accoutumance et la vie commune font que nous accordons à la vie de la mère, pour la sauver, de sacrifier l'embryon que nous ne connaissons pas et auquel nous ne sommes pas attachés. Pourtant, ce motif ne possède pas la moindre valeur dans la balance de la justice absolue. Donc, comme je vous l'avais dit, nous sommes vraiment là, c'est une tolérance qui est donnée, c'est une liberté de réfléchir et de penser sur sa vie et sur sa situation. Donc, confronté, on voit ici que, bon, il y a quand même, bon, il y a cette tension entre l'intérêt de la mère et l'intérêt de l'enfant. Ici, le choix s'est fait au profit de l'intérêt de la mère. Ce conflit de valeurs entre les deux droits qui participent, ils participent tous deux, en quelque sorte, au sacré de la vie, le droit de la mère comme le droit de l'enfant. Et l'argument soutenu par le cher Elbouti rejoint l'idée que, dans ce cas-là, l'embryon n'est pas différent de la personne de la mère. Et, en quelque sorte, la mère peut le traiter comme une partie de son propre corps. Et là, il va légitimer sa position à travers une règle de jurisprudence qui peut résoudre beaucoup de problèmes, qui est celle des nécessités qui s'évaluent selon leur propre échelle. Donc, à travers ces différentes fatwas, ces différentes positions du cher Bouti, on peut voir que c'est le droit des conjoints là, qui est mis en avant. Conformément au principe, comme il dit, de tolérance, la roursa, et qui signifie pour lui ce que souffle le législateur en fait d'autorisation aux époux d'opter pour procréer ou de ne pas procréer, de recourir aux méthodes médicales anticonceptionnelles, conditionnées principalement par l'accord mutuel des deux époux pour arriver à un compromis partiel ou entier avec la situation. Deuxièmement, le moyen utilisé à cette fin est à notifier par un avis médical requérant la présence de deux médecins afin qu'ils corroborent la méthode choisie. Celle-ci ne doit entraîner aucune atteinte à la santé. Donc là, on notera l'importance de l'expertise médicale qui, en quelque sorte, va avoir un rôle moral important, une fonction morale importante. Même si cet acte va engager, en quelque sorte, l'avenir de la communauté dans son ensemble, le Cheikh El Bouti reprend « Le droit de la société n'a aucune autorité, aucun pouvoir sur les principes étayant les droits parentaux. » Alors là, il faut revenir il y a une autre citation, elle est brève. Aucune pression extérieure au couple n'intervient en la matière. Donc là, il faut revenir au cas de la régulation des naissances, qui, pour le cher, est une disposition pour le couple qui, face aux contingences de la vie, est contraint d'interrompre le cycle de procréation pour une durée déterminée. Cette disposition, qui concilie le rôle de la société et le désir des individus, ne doit échapper à personne. Et il finit, c'est ce à quoi aspire la charia islamique. Néanmoins, le Cheikh El Bouti est syrien, donc il faut revenir quand même un petit peu au cadre national, en l'occurrence la Syrie. C'est encore un pays en transition démographique, et le problème de la régulation des naissances a posé problème. D'ailleurs, en 1992, je vous fais une citation, après je vous explique. Alors, le cher dit « Quand l'intérêt de l'humanité se réduit à coucher sur du papier des textes de loi interdisant l'avortement et prônant dans le même temps le contrôle des naissances, quand ces articles de loi sommeillent dans les placards et que les femmes et les médecins coopèrent dans la pratique de l'avortement, dans de telles circonstances, l'apologie de l'humanité et sa défense se transforme en mélopée plaisante qui apaise les âmes, les confine aux rêves. » Donc là, on est obligé de revenir au contexte syrien. Donc, en Syrie, depuis les années 90, avec le planning familial, les femmes peuvent se procurer des médicaments anticonceptionnels. Or, vous avez deux lois qui traînent, parce qu'elles traînent, depuis 1949, où les produits anticonceptionnels sont interdits de vente. Voilà, donc vous avez une loi complètement caduque. Et d'autre part, l'avortement est puni de peines. Bon, vous avez plusieurs peines qui peuvent aller de 2 mois à 2 ans d'emprisonnement. Alors, dès 1974, nous avons eu des juristes, enfin, des avocats, des médecins et les religieux qui ont fait des conférences pour demander à ce que la loi positive soit remaniée eu égard aux pratiques qui ne la suivaient pas. Puisque l'avortement il y a beaucoup de médecins le pratiquent. Alors, il y a tout le contexte des années 60-70 avec Israël, où, pas chez les religieux, je ne l'ai jamais vu, mais chez certains nationalistes, la démographie était une arme. Donc, voilà, en gros, je ne vais pas vous asséner de chiffres, parce que l'indice de fécondité en 1986 était de 7,83. C'était l'un des pays où les femmes faisaient le plus d'enfants. Et il est tombé en 2001 à 2,37%. Donc il y a vraiment eu un infléchissement.
En 90 ?
86. 2001. Donc, la réalité de l'interruption de grossesse tient compte de paramètres qui conjoignent des niveaux de lecture à la fois distincts, le côté théologique, côté sociologique, anthropologique, plus psychologique et national. Dès lors se pose le problème de tension entre ce qui, pour un religieux, doit être régulé par la société et ce qui doit être laissé à la seule préférence individuelle. De toute façon, en cas de conflit entre les statuts de la mère et du fœtus, comme vous avez pu le voir dans un extrait, ce dernier ne se voit plus accorder de protection. Seul le statut de la mère va prévaloir, alors même que l'avortement en Syrie est interdit par la loi positive. Là, nous sommes dans une espèce de nœud. Enfin, bon, l'État laisse faire. Donc, je vais conclure. Et je dirais que ce qui me semble important par rapport à notre questionnement commun, c'est que, quelque part, l'apport anthropologique et la réflexion éthique sur laquelle on peut s'étayer va permettre peut-être d'éviter tous les problèmes de dogmatique, et on peut essayer de trouver des ponts sur ces questions-là. Hein, il est possible de trouver des ponts et de trouver des choses qui peuvent être tout à fait pertinentes pour les différentes cultures. D'autre part, voilà, du côté de la sphère islamique, je pense qu'il est important peut-être pour ces questions, après je ne sais pas, hein, de travailler cette notion de maslaha qui va permettre un déplacement toujours vers cette dimension et va donner beaucoup plus de souplesse à la compréhension de sociétés qui se vivent ici et maintenant, et notamment par rapport au statut de la femme. Voilà.